écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Renaissance au pluriel, tel est le thème de cette dernière émission de la saison 2013-2014. Au cours de nos émissions, cette année, nous avons abordé plusieurs fois les problèmes que rencontre le livre, de l'auteur à sa diffusion. Dans cette émission, ce sont les renaissances variées de l'écrit et de sa diffusion que nous allons mettre en valeur. Renaissance, cela veut dire d'abord nouvel essor, nouvelle forme, mais cela veut dire plus profondément encore nouvel esprit, nouvelle naissance. Ces renaissances s'inscrivent en référence à cette très belle citation de Louis Lavelle que nous avons citée plusieurs fois cette année. La corruption de la parole et de l'écriture est la marque de toutes les autres corruptions. Il disait cela en 1946. Et en écho, nous proposons cette proposition. La renaissance de la parole et de l'écriture est témoignage de toutes les autres renaissances. Pour explorer ces renaissances, parmi bien d'autres possibilités, nous en avons retenu 9. D'abord deux auteurs, Jean-Claude Junin, qui est en studio avec nous, et Françoise Lumignagna, que nous avons interrogée, car elle est à Montpellier. Une maison d'édition, l'histoire de la librairie La Galerie, à Sanary-sur-Mer, dont nous avions parlé sans nous étendre par manque de temps, un colloque qui va vers ses 25 ans, un festival littéraire original, et puis quelque chose de surprenant, chers auditeurs, nous allons réfléchir un petit peu sur trois fois la notion des trois cultures. Mais commençons par les deux auteurs. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Michel.
Merci d'être en studio avec nous pour toute l'émission, et vous allez nous parler de deux choses. Dans un premier temps, votre nouveau roman, et dans la deuxième partie de l'émission, du festival que vous organisez à la fin de l'année. Alors, vous avez écrit déjà un premier roman, Cicérone, qui date, je crois, de 2013.
Oui, une première sortie qui est sortie il y a un an, le 24 juin l'année dernière. Voilà, donc c'est presque son anniversaire.
Et vous en préparez un autre, dont je crois connaître le titre, qui va paraître lui en septembre.
Qui paraîtra, si tout se passe bien, fin septembre.
Fin septembre, et dont le titre est « Merci maman ».
Alors c'est un titre très provocateur, là je change complètement de registre par rapport à la Cicérone, puisque quelque part je pars d'un événement difficile, puisque je parle de l'abandon, mais phénomène que je connais bien, puisque j'ai été moi-même abandonné, je le dis toujours, j'ai eu la chance d'être abandonné dans une église à une époque où les églises étaient ouvertes la nuit. Peut-être qu'aujourd'hui j'aurais fini dans un congélateur. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable, même si les bancs d'une église sont durs, c'est quand même beaucoup plus confortable. Et j'ai voulu porter un autre regard et je me suis mis vraiment à la place de cet enfant. J'avais 6 ans quand c'est arrivé. Donc je me suis vraiment mis à la place de cet enfant de 6 ans et comment on vit à 6 ans et comment on va rentrer dans un monde imaginaire pour se protéger, pour se défendre. Et surtout, c'est un message, je veux dire que pour s'en sortir, il y a quelque chose absolument magnifique et de rédempteur, c'est la culture. Et je suis absolument persuadé que grâce à la culture, on peut sauver énormément de vies dans le sens le plus large du mot.
Et alors, vous racontez cette émergence par l'adoption dans un monde qui a dû être pour vous plein d'aventures, plein de découvertes.
Alors c'est vrai que c'était difficile puisque je venais a priori d'une famille ouvrière dans des conditions très difficiles. J'ai eu la chance d'être recueilli puis adopté bien des années plus tard par une famille qui voyageait énormément. Donc puisque mon père adoptif travaillait en Afrique. Donc j'ai passé énormément de temps en Afrique, ça m'a ouvert à d'autres cultures, d'autres civilisations, et je pense que ça aussi, ça m'a énormément aidé à être ce que je suis aujourd'hui.
Merci maman, c'est un livre que vous faites paraître à compte d'auteur.
Oui, parce que par défaut, on connaît bien tous les deux le monde de l'édition. Mmh. Et moi, je pense qu'il y a aujourd'hui que deux possibilités pour un auteur d'être connu. C'est ou de signer avec une grande maison, il n'y en a pas 36, il y en a une quarantaine en France, ou alors il faut faire du compte d'auteur. Alors, c'est un faux compte d'auteur puisque j'écris ma propre maison d'édition. Mais effectivement, je pense qu'il y a aussi la satisfaction de pouvoir se payer un petit week-end ou des petites vacances. Et je pense que c'est parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans une petite maison d'édition, percevoir des droits d'auteur et c'est miraculeux.
Alors pour les auditeurs,
peut-être que je signerai dans une très grande maison, on sait pas.
Un jour viendra.
On sait pas. Un jour viendra.
Et pour les auditeurs, pour trouver votre livre à la fin septembre, début octobre, comment, quelle maison d'édition, quel titre, comment s'y prendre?
Alors, il sera diffusé comme le premier, bien évidemment, malheureusement, sur Internet, ouais, puisque c'est un canal aujourd'hui incontournable. Dans les librairies de la région, les classiques qui distribuent déjà la Cicérone, donc Tac Motif, le Art et Livre, enfin toutes les librairies du coin. Et je ferai comme j'ai fait pour la Cicérone, j'organiserai des soirées lecture. Toujours dans des endroits un peu différents, puisque pour la Cicérone, j'en ai fait une dans un restaurant, j'en avais fait une place aux airs.
Alors nous avons des auditeurs en France et même à l'étranger. Donnez-leur, Jean-Claude, le titre exact de l'auteur, le titre du livre et la référence de la maison d'édition. Avec ça, ils devraient retrouver sur Internet votre livre.
Alors, le titre du livre, ce sera « Merci Maman ». L'édition, ce seront les éditions Riquetti, ce sont les éditions que j'ai créées. Et le nom de l'auteur, pour l'instant, j'ai un doute, puisque j'hésite entre l'écrire sous mon nom de naissance ou sous mon nom adopté. C'est une réflexion que j'ai eue il y a quelques jours. Et pour l'instant, j'hésite. Donc, ce sera Jean-Claude. Vous pouvez déjà retenir le prénom, il n'y a pas de problème. Le prénom, c'est Jean-Claude.
Très bien. Jean-Claude, nous pouvons avoir un petit extrait de ce nouveau livre?
Alors, dans ce livre, l'enfant fait des feedbacks permanent entre ce qu'il vit cette nuit-là avec des fantasmes d'enfants pour se sauver et également la vie, enfin, ou en tout cas ce qu'il se souvenait de sa vie quelques jours plus tôt. Donc j'ai choisi un petit morceau très court et qui est gentil. Tous les passages ne sont pas gentils, tous les passages, il y a certains passages qui sont très violents, et je pense que là j'avais envie de faire quelque chose de plutôt gentil. Une fois qu'elle a eu sa paye, on va chez Père Armand. Là, il sort son cahier, et il fait le compte de ce qu'elle a acheté dans la semaine. Elle paye aussi les 12 bouteilles de vin qu'elle vient de prendre, comme tous les samedis. C'est qu'elle prend la bouteille au sérieux, la rose. Et éventuellement quelques courses, des boîtes de conserve, et de la lessive. La lessive. Elle prend toujours la même. C'est un gros morceau de savon de Marseille. Il sent bon, ce savon. Moi, j'aime bien. Et puis, il sert à tout. Elle lave le linge, elle lave le sol, elle lave les vitres. Et on se lave avec le samedi après-midi. C'est un rituel, le bain du samedi après-midi. On se lave tous. La Rose fait chauffer une grande quantité d'eau sur la cuisinière qu'elle verse dans un grand baquet en fer blanc qui nous sert de baignoire. On se baigne toujours dans le même ordre. Les garçons en premier et les filles ensuite, et dans l'ordre de naissance. Moi j'ai de la chance, je suis le deuxième garçon. On est 4 garçons et 3 filles. On a droit à 15 minutes chacun dans le bain. Et la Rose surveille la pendule de la cuisine. C'est que ça paraît pas, mais la lessive des enfants, ça lui prend quand même plus de 2 heures tous les samedis. Entre chacun d'entre nous, la Rose enlève l'équivalent d'un seau d'eau qu'elle remplace par de l'eau bien chaude. On s'amuse dans le baquet. Mais on n'a pas intérêt à mettre de l'eau par terre, parce que là, illico, le Messerschmitt, il descend en piqué et on s'en prend une sévère. Et on a beau pourtant le savoir, on ne peut pas s'empêcher de faire des bêtises. C'est devenu un jeu entre nous, sauf que la Rose, elle cogne toujours aussi fort. C'est ma grande sœur qui n'aime pas le bain. D'un côté, je la comprends, elle a pas de chance. C'est la troisième de la famille, et les 4 garçons qui sont nés après elle lui passent tous devant pour le bain. Alors bien évidemment, l'eau, elle est un peu trouble. Bon, surtout que pendant le bain, la Rose, elle lave notre linge. Donc, on est tous les 7 à poil dans la cuisine, en attendant de faire trempette. Heureusement qu'il fait chaud dans la cuisine, parce qu'après, quand on sort du baquet, on a droit à des vêtements tout propres qui sentent bon la lessive. Moi, j'aime bien. Ensuite, on peut aller jouer dans la cour. On n'a pas intérêt à se salir. Surtout que le dimanche, on va tous ensemble à la messe. Et on a intérêt à être propre ce jour-là. Et les vêtements, on les portera jusqu'au samedi suivant. Et si on se salit, la Rose ne voudra pas nous changer. Je vous raconte pas certains samedis où les fringues, elles tiennent toutes seules.
Merci Jean-Claude. Deuxième auteur, Françoise Lumignana. Avec son premier roman, Jusqu'à devenir, aux éditions Le Bateau Ivre à Toulon. Françoise est médecin. Puis elle devient comédienne, auteur, compositeur, interprète, puis à nouveau médecin, pétrie de son parcours d'artiste. À Montpellier, Elle est actuellement médecin en soins palliatifs. Dans ce roman, elle ose nous entendre, nous faire entendre la voix de ceux qui vont partir, des fins de vie source de courage, de beauté, pour nous qui un jour ou l'autre connaîtrons ce passage. Écoutons Françoise. Bonsoir Françoise.
Oui, bonsoir.
Alors, je vais vous poser, si vous voulez bien, 5 questions. La première, c'est tout simplement, quelle est l'origine ou les origines de ce livre qui est un roman et qui est votre premier roman ?
Alors, donc je suis soignante, médecin en soins palliatifs actuellement. L'envie d'écriture de ce roman était motivée par des questions qui me revenaient très souvent à l'esprit quand je quittais le lit d'un malade, d'une personne malade. Je me disais toujours, mais au final, à quoi elle pense cette personne ? Que pense-t-elle de nos soins ? Est-ce que on lui donne la parole à un moment donné ? Et qui peut lui donner la parole ? Voilà. Donc ma motivation, ça a été donner la parole aux personnes malades. Donc donner une parole, c'est pas simple. Il faut l'interroger. Donc j'ai choisi un mode d'écriture particulier, puisque j'ai choisi un mode d'écriture fictionnel, de façon à pas trahir véritablement les paroles des personnes malades que j'accompagne. Voilà. Et puis l'idée aussi, c'est de faire passer des messages, bien évidemment, hein, et l'écriture fictionnelle le permet, hein, voilà. Donc c'est pour cela que j'ai décidé donc d'écrire ce livre.
D'accord, très bien, voilà. Françoise. Quel apport ou peut-être peut-on dire quel don ces fins de vie vous offrent dans votre travail ?
Alors j'aurais tendance à inverser la question finalement parce que ces fins de vie, c'est les dons que je peux apporter à ces fins de vie, plutôt. C'est la satisfaction d'accompagner ces personnes jusqu'au bout d'une vie en fait, hein, qui est la leur, bien évidemment, en prenant soin d'eux, en prenant soin aussi de leur entourage, en respectant leurs choix, hein, parce qu'on peut faire des choix en fin de vie, des choix de soins aussi. Tout ça dans un partage d'humanité. Voilà.
Alors, vous êtes médecin et artiste. Comment se concrétise cette alliance ?
Très bien, je dirais. Ce sont deux passions, en fait. Deux passions, j'ai oscillé entre ces deux activités et j'arrive à combiner les deux actuellement. Puisque donc je suis médecin et j'écris. Et je dirais que c'est une oscillation d'une activité à l'autre, avec une ouverture sur le monde. Voilà. En ma qualité de médecin, je suis toujours à l'écoute, je suis curieuse, et puis dans l'inventivité, parce que dans le soin, actuellement, il faut être inventif, particulièrement dans ce que je fais donc en soins palliatifs, puisque je fais des soins palliatifs sur le domicile. Et ça m'amène, je rencontre parfois des situations absolument imprévues. Le fait d'être artiste et d'avoir aussi fait du théâtre me permet d'improviser dans des situations, voilà, et d'être créative, parce que je pense que pour soigner, il faut être créatif, c'est important, voilà. Oublier la technique un petit peu, voilà.
Et votre prochain ouvrage ?
Alors, mon prochain ouvrage, j'ai un projet, en fait, parce que j'ai un projet d'écrire sur une jeune femme, je dirais, moderne. Moderne, donc actuelle. On voit beaucoup de jeunes aides-soignantes dans les établissements, peu formées, hein, à leur métier, confrontées directement à la maladie, à la vieillesse, à la mort. Et c'est un rapport, un corps à corps, qui est difficile. Voilà. Et on voit d'ailleurs, hein, des affaires judiciaires avec actuellement, enfin, des euthanasies, hein, qui ont été réalisées, hein, par des aides-soignantes. Il y a eu, donc l'année dernière, en fait, le cas d'une jeune femme. Et je trouve que c'est quelque chose dont il faut parler absolument. Mon choix sera évidemment, hein, de l'écriture fictionnelle. Voilà, ce projet donc est en train de mûrir, hein, parce que je viens de terminer ce premier roman. Donc, mais voilà mon idée de départ. Voilà.
Très bien, Françoise. Jusqu'à devenir Françoise Lumignana, aux éditions Le Bateau Yves, une très belle maison d'édition. Vous avez un site, parce que je pense que beaucoup d'auditeurs voudront en savoir plus sur vous. Alors, quel est votre site, Françoise ?
Alors, mon site est françoiselinana, www.lesgrandesfamilles.com.
Très bien. Merci beaucoup, Françoise. Et je pense, en 2015, nous parlerons de votre prochain livre. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonsoir.
Au revoir.
Au fur et à mesure que la nuit avance, les corps des danseurs s'adaptent, gagnés par cette fatigue bien vivace. Ici, nous sommes tous des nouveau-nés, déjà fatigués par cette nouvelle vie. Les corps les plus chanceux résistent. Ceux des futurs morts vieillissent à vue d'œil. Continuez à danser, intérieurement. C'est le secret de tout un chacun. Danser à son rythme. La tarantelle ou bien une autre danse. Celle de l'espoir, peut-être, éclairée par la petite flamme vacillante d'une bougie. Cela durera le temps qu'il faut. Ce temps unique, suspendu pour dire adieu. Et puis me voir, moi, Emilia, devenir un minuscule point noir dans le ciel. Imaginez que ce moment soit empêché. Une interruption brutale de la musique. Tous les danseurs du moment s'écroulent. Et c'est le noir. Total. Certains proposent cette solution. D'autres proposent de relever la tête et de continuer à regarder. La peau du ciel, inlassablement, se constelle de grains de beauté.
Ne quittez pas l'antenne, chers auditeurs, nous reprenons après les informations. Dans ce voyage, Renaissance au pluriel, chers auditeurs, arrêtons-nous à Montsartou. Montsartou. Cette année, ça sera le 24e colloque de l'association Art, Sciences et Pensées. Le thème du colloque, Art, Complexité, Cerveau. Cette association a été créée il y a 24 ans par Paul Charby, qui était médecin et qui est toujours médecin, qui est un président plein de dynamisme, et quand vous l'écoutez parler, vous verrez que son projet, ses orientations sont vraiment de la Renaissance. Écoutons-le. Bonjour Paul.
Bonjour.
Alors Paul, vous allez effectuer cette année le 24e édition du colloque qui est reconnu et très apprécié dans notre région et bien au-delà, puisque moi j'en entends parler pratiquement dans toute la France. Alors comment se présente cette 24e édition ?
Alors la 24e édition, ça va être Art, Complexité, Cerveau, qui est presque une conclusion, pas une conclusion, mais qui est arrivée comme si on ne pouvait pas faire autrement. Après 24 colloques, où on a entendu des scientifiques de tous les niveaux, des artistes, des philosophes, etc., on a beaucoup évolué, on a beaucoup appris, et on n'a rien résolu. Et c'est pour ça que dans la complexité se pose pour nous le problème de savoir s'il y a vraiment quelque chose à résoudre, parce qu'après tout, on a pu inventer à la fois la simplicité et la complexité, et que peut-être que on ne trouve pas quelque chose d'essentiel, parce que peut-être que avec l'analyse que nous avons rationnelle, intellectuelle, scientifique, est-ce qu'on ne passe pas à côté d'un élément de recherche et d'un élément de réflexion qui nous empêche peut-être d'appréhender la complexité ?
Très bien, très très beau sujet. Donc ça va être une conclusion. Et le 25e est la 25e édition. C'est en 2015. Elle se présente comment ?
Pour le moment, on va d'abord voir ce que la complexité nous apporte. Et si on a l'impression qu'il faut justement complexifier les thèmes en ajoutant un autre thème, on le fera. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en faisant le programme, je me suis aperçu que autant pour la physique, les mathématiques, l'écologie, les sociologies, etc., tout ça, la complexité est importante, parce que la technologie et les mathématiques, etc., nous apportent beaucoup de choses. Mais par contre, en art, on est à l'inverse. On passe finalement des grottes de Lascaux à la peinture figurative, à la peinture d'abstraction, au monochrome, comme si en art on faisait le chemin inverse.
très intéressant comme thème. Autrement dit, la question de l'art est l'expression des trois mots la plus fragile et sur laquelle il y aurait lieu de travailler.
Oui. Mais de toute façon, voilà, hein, ça va être intéressant de nouveau. Hein, mais c'est toujours intéressant. Et ce qui est bien, c'est que comme on n'a jamais une réponse à ce que l'on cherche, on continue de chercher. C'est comme un train qui avance, on sait qu'il va s'arrêter à une gare, mais que cette gare n'est pas la fin de la connaissance. On avance tout le temps et on est content d'être dans le train qui avance.
Alors Paul, merci beaucoup de nous présenter ainsi le 24e colloque. Rappelez combien il y a environ d'intervenants et combien de personnes ?
Toujours la même chose, il y a une trentaine d'intervenants, des mathématiciens, des physiciens, des informaticiens, des médecins, des neurologues, des neurosciences, des chirurgiens plastiques, des artistes, des philosophes, voilà. On fait du colloque comme on devrait aborder la complexité, c'est-à-dire s'il y a une solution, c'est en additionnant les savoirs. C'est-à-dire que si on cherche quelque chose, je suis pour le groupe. C'est-à-dire il faut à la fois un biologiste, un mathématicien, un philosophe, un artiste, voilà. Moi, c'est comme ça que je pense qu'il faudrait aborder la plupart des sujets, pas du tout seul, isolé et verticalisé, mais plutôt en s'entourant de gens différents de soi. Et c'est avec l'addition de tous ces savoirs sur le même thème qu'on peut peut-être approcher quelque chose.
Merci beaucoup, Paul. En tout cas, je note aussi que ce 24e colloque, c'est une nouvelle gare et que la destinée pour les gares qui suivent, il y en a bien pour 25 ou 30 ans. Alors, on se donne rendez-vous dans 25 ou 30 ans, Paul.
D'accord. Si je suis toujours là, avec plaisir.
Merci, Paul.
Au revoir.
Au revoir. Colloque de Montsartou, septembre 2014, les 11, 12, 13, 14 septembre. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Et je pense que de merveilleux débats s'engagent et que les 25 années à venir du colloque seront assez extraordinaires. Voilà un lieu de savoir et surtout de connaissance. De Montsartou, partons à Saint-Nary-sur-Mer pour faire une brève halte sur la librairie La Galerie. Si vous allez de temps en temps à Saint-Nary-sur-Mer, vous avez vu cette galerie absolument extraordinaire, cette librairie, la galerie, qui est sur le port. Elle a fermé il y a quelques mois. Son histoire est extraordinaire. Cette librairie a été créée en 1956 par une pharmacienne qui s'embêtait comme pharmacienne et qui voulait quelque chose de plus intellectuel. Elle a dû abandonner parce qu'elle se faisait voler trop de livres et qu'elle avait des problèmes. Ça a été reprise par une infirmière, décidément les femmes et la santé, quelle perspective, par Anne-Marie, qui elle-même a dû abandonner en décembre dernier. Et cette librairie est désormais un restaurant. Donc de ce côté-là, apparemment la galerie est finie. Non, elle n'est pas finie. Véronique, l'assistante d'Anne-Marie, est en train de préparer sa rentrée et elle va ouvrir très prochainement à Saint-Nary une nouvelle librairie. Et en attendant, si cet été vous allez à Saint-Nary-sur-Mer, allez voir la librairie Baba Yaga qui offre l'accueil à Véronique et qui sera là pour vous présenter ses projets. Et en attendant, écrivez-lui vero.librairie@gmail.com. Elle vous dira plein de choses, ses coups de cœur, et vous annoncera quand sa librairie va ouvrir. De là, partons très rapidement dans le Verdon pour saluer une nouvelle fois une maison d'édition plein de projets, une coopérative ouvrière tout à fait originale avec de très beaux livres, Jean Darrot. Écoutons-le. Alors Jean, vous venez de fêter les 10 ans des éditions Parole à Ops. Quels sont vos projets pour les 10 ans qui viennent ?
Alors les projets, c'est de continuer dans le sens de ce qu'on a fait, hein, de donner la parole à un certain nombre de gens qui souvent ne l'ont pas, et puis de produire des choses qui sont du domaine du partage, c'est-à-dire essayer de justement de faire des livres qui permettent à ceux qui ont des choses à dire de l'offrir à ceux qui ont des choses à comprendre, à apprendre, à apprécier. Voilà, c'est un peu notre travail. Donc notre projet, c'est de continuer au pas qu'on a choisi, c'est-à-dire pied après pied, pas après pas, sans faire de bêtises, et puis en choisissant. On a une maison d'édition relativement modeste, donc de pas faire plus que ce qu'on peut faire, non seulement pour des problèmes financiers, mais aussi, surtout, être capable de... On peut pas porter plus de livres, c'est comme les enfants qu'on peut en élever, quoi, parce qu'il faut les porter, il faut les défendre, il faut les amener jusqu'au lecteur, et ça c'est un travail qui demande de pas avoir trop d'enfants à élever, voilà.
Comment vous expliquez, Jean, votre développement vraiment quand même remarquable ?
Eh ben justement, c'est, je crois que c'est à la fois notre bon sens paysan, parce qu'on est en même temps paysan, et c'est de faire une chose après l'autre, ne pas vouloir, comme on dit vulgairement, péter plus haut que son cul, et puis choisir, prendre son temps, choisir, et puis avoir un nombre limité de livres, mais qu'on défend, et puis choisir des modes de diffusion qui sont d'aller vers les gens, avec nos histoires de marché, nos soupes aux livres, un certain nombre de manifestations auxquelles on participe. Et alors, je ne parlerai pas de réussite au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire réussir, ça veut dire faire du fric. Non, réussir, c'est être à notre place, quoi. Être à notre place d'éditeur, c'est-à-dire faire des livres pour ce partage dont je parlais tout à l'heure, hein, comme d'autres. Un garagiste, il répare les voitures pour aider les gens. Un paysan, il fait de la nourriture pour nourrir la population et non pas pour faire du fric. Voilà, être à sa place, je pense que c'est un petit peu ça qui nous a permis d'avancer régulièrement, sans à-coup et avec, je dirais, un certain équilibre, une harmonie.
Jean, pour nos auditeurs, votre site, rappelez-le.
Oui, alors c'est www.édition avec un S, tiré, parole sans S, surtout on n'en a qu'une, point net. Donc édition-parole.net.
Merci beaucoup Jean et voilà. À nos auditeurs que nous reprendrons pour eux la référence du site dans la note de synthèse. Nous ajoutons une très très belle maison d'édition dans les Gorges du Verdon. Merci Jean.
Merci beaucoup.
Continuons cette aventure, ce voyage, à partir du chiffre 3. Vous savez que le chiffre 3 est universellement un nombre fondamental. Allez explorer le chiffre 3, vous avez Internet, vous avez des médiathèques, vous avez plein de supports, même si vous n'avez pas de livres dans votre bibliothèque. Et arrêtons-nous sur trois cultures. La première, très brièvement, c'est un ouvrage, Les trois cultures, qui a été fait par un Allemand, Wolf Lapagnès. Et que veut dire ce livre ? Si la littérature et les sciences avaient leur place assurée à l'université, il montre que la sociologie a dû conquérir ce droit d'y entrer. Je rajouterai toutes les sciences sociales. Donc c'est premier livre sur les trois cultures. Deuxième trois cultures, c'est à Mexico. Et c'est un clin d'œil fait à l'Amérique latine. Écoutons, oui, à Mexico, il y a la place des trois cultures.
La place des trois cultures, ou place de Tlatelolco, est une esplanade située dans le centre de Mexico. Elle tire son nom du fait que les ensembles architecturaux situés aux alentours ont été bâtis en trois étapes historiques ou culturelles différentes. Premièrement, la culture de Tenochtitlan, antérieure à la conquête de l'Empire aztèque par les conquistadors espagnols. Date de cette époque des pyramides et des ruines préhispaniques bâties par les Mexicains. À cette époque et dans ce lieu, il y avait un célèbre marché qui fournissait les habitants de la vallée du Mexico en marchandises en tout genre provenant de la Mésoamérique entière. Deuxièmement, la culture espagnole, de la conquête à l'indépendance du Mexique, représentée par un couvent et la cathédrale catholique de Santiago, datant de la période coloniale. Les conquistadors avaient l'habitude de faire construire des églises sur les temples préhispaniques, utilisant les pierres de construction. Et enfin, la culture du Mexique moderne, représentée par la tour de Tlatelolco, qui abrita jusqu'en 2005 le ministère des Affaires étrangères. Actuellement, cette tour est le siège du Centre culturel universel et du Mémorial de 68 de l'Université nationale autonome du Mexique. Hernán Cortés s'est rendu sur le marché de Tlatelolco avant le début de la guerre de conquête du Mexique. Et ce, quelques jours auparavant la dernière et la plus décisive bataille entre Aztèques et Espagnols, et le chroniqueur Bernal Díaz del Castillo raconte que la tuerie de ce jour-là fut si sanglante qu'il était impossible de marcher dans ces lieux à cause des tas de cadavres empilés. On estime à plus de 40 000 le nombre d'indigènes morts ce jour-là. C'est là qu'en 1967 a été signé le traité de Tlatelolco visant à créer une zone exempte d'armes nucléaires en Amérique latine. Ce traité fut l'œuvre du diplomate mexicain Alfonso García Robles, récompensé en 1982 du prix Nobel de la paix. Quatre siècles après, il y eut lieu le massacre de Tlatelolco du 2 octobre 1968. Des centaines de civils, pour la plupart des étudiants, furent tués par l'armée et la police sous l'ordre du président Gustavo Díaz Ordaz et de son ministre de l'Intérieur, tous les deux affiliés au Parti révolutionnaire institutionnel. Plusieurs écrivains mexicains ont exposé les faits dans des œuvres aujourd'hui devenues classiques, parmi eux Octavio Paz, prix Nobel de la littérature en 1990.
Voilà, à travers le Brésil, à travers le football, réfléchissez à ce merveilleux continent de l'Amérique latine et si vous pouvez, allez un jour, si vous ne l'avez déjà fait, allez au Mexique et si j'ai un livre à vous recommander, même si vous l'avez déjà lu, c'est le merveilleux livre de Gabriel Garcia Marquez, « 100 ans de solitude ». Gabriel Garcia Marquez est né en Colombie en 1928 et il est décédé en 2014 au Mexique. Et puis, comment, avant de quitter le Mexique, ne pas vous rappeler cette clôture de la mort entre le Mexique et les États-Unis. 10 000 migrants sont morts en 20 ans en tentant de passer secrètement la frontière. Troisième trois cultures, beaucoup plus proches de nous, celle de l'Andalousie. Cette merveilleuse culture qui a fait que pendant des siècles, les Juifs, les chrétiens et les Arabes non seulement s'entendaient, non seulement partageaient leurs connaissances, mais montraient que ces trois conceptions du monde pouvaient parfaitement s'entendre et être un lieu de production, d'harmonie, d'un vivre ensemble extraordinaire. Écoutons seulement brièvement cette musique. Savoir plus sur ces trois cultures arabo-andalouses, allez à l'Institut du monde arabe, lisez les contes merveilleux des Juifs et des Arabes publiés par Henri Coucou, un merveilleux conteur, et puis vous allez vous-même trouver des livres absolument extraordinaires. Trois cultures dans trois lieux différents, l'Occident, avec la question de la littérature, des sciences et de la sociologie, c'est un peu rationnel, le Mexique et au-delà toute l'Amérique latine, très porteur d'histoires parfois douloureuses, et une trois cultures andalouses qui nous rappelle que le monde du vivre ensemble est devant nous. Nous arrivons vers la fin de notre émission, tout doucement, et voilà, je reviens vers vous, Jean-Claude. Vous avez un projet à partir de l'an dernier, vous avez fait l'an dernier le Salon du Livre de Grâce au Centre Leclerc, vous allez repartir cette année avec un projet aussi plein de renaissance, et j'aurais que cette émission se termine avec vous, parce que non seulement la même année, vous publiez un livre absolument extraordinaire, je ne connais pas de livre parlant de l'adoption comme vous allez le faire, et puis votre projet qui va suivre celui que vous avez fait l'an dernier mérite qu'on le connaisse dès maintenant, même si tout n'est pas au point. On vous écoute.
Merci Michel. Alors l'année dernière, on a fait une grande nouveauté puisque j'ai voulu créer le Festival du Livre de Grâce. J'ai la chance d'avoir eu une équipe sur laquelle j'ai pu m'appuyer et nous avons rassemblé 75 écrivains dans la galerie marchande du Centre Leclerc. Et fort de ce succès, nous avons dit eh bien le festival va devenir de plus en plus important, il va garder son âme qui est vraiment d'être un festival réservé aux auteurs régionalistes et pas forcément aux têtes d'affiche. Donc c'est vraiment l'idée, un peu ce qui se fait dans le monde de la musique, ce qu'il y avait avec les Vieilles Charrues, où l'idée est vraiment de donner la chance à de nouveaux écrivains. Cette année, nous allons accueillir une centaine d'écrivains. Nous serons accueillis pour la deuxième année consécutive à la Galerie du Centre Leclerc. Monsieur Francis Massiot, le propriétaire, nous a donné son accord pour financer notre association. Et cette année, on va vraiment monter en puissance. Ça va être un grand moment fort. Je rappelle que mon ambition un peu folle que j'ai annoncée l'année dernière, c'est d'ici 4 à 5 ans, rassembler à Grasse, mais pas seulement à Grasse, parce que le Festival du Livre de Grasse, ça peut être aussi le Festival du Pays de Grasse historique. Donc pour l'instant, c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Et je vous remercie, Michel, d'avoir rejoint notre comité de pilotage pour travailler sur ce projet. Je remercie Agora FM, puisque Agora FM sera notre partenaire privilégié pour cette deuxième édition. Et on va vraiment... l'idée, c'est à terme que ce festival... non pas de Grasse, mais du Pays de Grasse, puisse permettre à des gens de naviguer sur plusieurs endroits et d'aller à la rencontre d'auteurs absolument fabuleux. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas édité chez une tête d'affiche qu'on est forcément un mauvais écrivain, au contraire. Et je pense que c'est très très bien, dans l'idée des Passeurs de Livres, cette association que j'ai créée l'année dernière, où nous mettons gracieusement des livres à disposition dans des boîtes à lire qui sont réparties un peu partout dans la ville. L'idée, c'est vraiment d'amener la culture dans des endroits où les gens ne s'y attendent pas. Faire un salon littéraire dans une galerie marchande, ça surprend, mais vu le succès, je suis très très heureux d'avoir eu cette idée. Et merci de m'accueillir et de me permettre de parler de ce festival.
Merci Jean-Claude, vous avez ouvert l'émission avec votre nouveau roman, vous le terminez avec ce Festival du Livre. Chers auditeurs, très très bonnes vacances, on se retrouve en septembre pour de nouvelles aventures et de nouvelles découvertes qui vont vous passionner. Bonnes vacances.
Au revoir et merci.